Vous êtes sur RTL.
8h. RTL Soir, Antoine Cavallero. Bonsoir Antoine.
Et bonsoir Isabelle, bonsoir à tous. Ravi de vous accompagner jusqu'à 18h30. Avec à la une, Yannick Noah, à jamais roi du Châtrier, 40 ans après son exploit. Le vainqueur de Roland Garros a donné un concert cet après-midi devant un public à nouveau conquis.
Tout le monde!
RTL vous raconte cet après-midi exceptionnel. Nous aurons aussi les mots de Yannick Noah, interview en longueur à la fin de ce journal. Dans l'actualité également, le rugbyman Mohamed Awas en garde à vue pour violence conjugale. Fin de cavale pour le suspect de Dreux, soupçonné d'avoir tué son ex-femme et ses deux enfants. La Turquie, à la veille du second tour de la présidentielle, Erdogan toujours grand favori. Le foot, l'avant-dernière journée de Ligue 1 avec un multiplex comme on les aime, avec des enjeux en haut comme en bas de classement. La Formule 1, Verstappen décroche la pole à Monaco, séance de qualification dantesque. Et puis, toujours sur la Côte d'Azur, dernière séance à Cannes, le palmarès, c'est ce soir les dernières indiscrétions. RTL vous les révèle en direct de la Croisette. Ce sera juste avant, on refait le match à 18h30 avec Philippe Sansfourche. Nous serons chez un cordonnier, un métier passion, un travail qui n'est jamais le même.
Quoi qu'on fasse, que ce soit des pièces qu'on va devoir mettre parce qu'il y a une déchirure, un chien qui a mangé une partie de la chaussure.
On retrouve notre cordonnier à 18h25. La météo, ça c'est avec vous. Bonsoir Valérie Quintin.
Bonsoir Antoine.
Demain, on fait un copier-coller. D'aujourd'hui, on reste sur du soleil et des orages.
Oui, c'est ça. En matinée, du soleil pratiquement partout en France. Quelques brumes côtières le long de la Méditerranée. C'est tout. Pour les autres, simplement du ciel bleu. Et puis dans la journée, ce soleil va se maintenir sur la moitié nord et au sud, ça va tourner à l'orage. Alors cette fois-ci, les orages seront un petit peu plus costauds que ce qu'on va connaître ce soir. Ça concernera l'Aquitaine, la région Midi-Pyrénées, mais également tout le Massif central et la région Rhône-Alpes, avec parfois un fort cumul, voire de la grêle. Côté Mercure, eh ben ça change pas non plus. 7 à 17 degrés au réveil entre les Ardennes et la Côte d'Azur. 17 à 30 l'après-midi de Dunkerque à Avignon. 27 degrés à Paris, à Marseille, à Nantes et à Grenoble.
C'est le week-end de la Pentecôte, Valérie, quel temps pour lundi?
Ah bah c'est ça, il nous reste une journée de plus qui sera exactement à l'image de ce qu'on a connu aujourd'hui et de ce que l'on va connaître demain, à savoir une matinée ensoleillée, un soleil qui va se maintenir sur la moitié nord toute la journée. Les orages vont reprendre dans le sud, dans l'après-midi et en soirée. Sur la moitié nord, on aura une petite nouveauté, c'est une bise un petit peu fraîche qui va faire baisser très légèrement le mercure.
Merci Valérie.
RTL Soir avec Antoine Cavallero.
Et 40 ans après son sacre, Yannick Noah célébré ce samedi Porte d'Auteuil. C'était sa journée à la veille du coup d'envoi du tournoi. Le seul vainqueur français de Roland Garros a pu rejouer sur le Châtrier. Cette fois, un concert plein d'émotions. Bonsoir Isabelle Langer.
Bonsoir Antoine, bonsoir à tous.
Notre Madame Tennis à RTL en direct de Roland. Et comme vous l'aviez annoncé, c'est pieds nus qu'il est arrivé sur la terre battue.
Salut tout le monde!
Ah, il ne l'a pas montré, mais Yannick Noah nous l'a confié ensuite. Il était assez ému au moment d'entrer sur le central de ses exploits il y a 40 ans. Mais très vite, le showman a mis l'ambiance. Pendant plus d'une heure, il a enthousiasmé le public.
C'était super, grosse ambiance, beaucoup de bruit. Tout le monde était à fond, tout le monde dansait, c'était vachement chouette. C'est sympa de le revoir en plus ici à Roland-Garros, donc ça fait plaisir à voir.
Il a même accueilli sur scène son grand ami, celui qu'il avait battu en finale en 1983, Mats Wilander, qui a pris sa guitare pour un remake d'une célèbre chanson. C'est vraiment la première fois que Noah est ainsi fêté depuis sa victoire à Roland-Garros. Demain, il inaugurera également une fresque qui retrace sa vie.
D'avoir ce qui se passe aujourd'hui et surtout demain pour mes enfants et pour mes petits-enfants, oui, je suis content qu'à un moment, si je ne suis pas là, qu'il reste quelque chose. C'est cool que ça se fasse, je suis très honoré.
Merci. Merci Isabelle Langer, on vient de l'entendre à votre micro. Vous avez donc pu vous entretenir avec Yannick Noah. On va l'écouter dans la longueur. Je vous dis à tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Roland Garros qui débute demain et ce motif de satisfaction pour le clan tricolore à 18 ans. Arthur Fils s'est imposé à Lyon cet après-midi, le premier tournoi ATP remporté par le 112e joueur mondial. L'espoir français a battu l'Argentin Cerundolo en 2-7. Porte d'Auteuil, il affrontera l'Espagnol Davidovic au premier tour.
RTL Soir.
À trois mois du mondial de rugby, un pilier du 15 de France placé en garde à vue, Mohamed Awas, arrêté hier soir en pleine rue à Montpellier, interpellé pour violence conjugale, des faits qui auraient été commis sur la voie publique. Selon les informations de RTL, sa garde à vue a été prolongée jusqu'à demain. Selon son avocat, il sera jugé mardi en comparution immédiate. Bonsoir Baptiste Durieux.
Bonsoir Antoine.
C'est un épisode de plus dans la carrière tumultueuse de Mohamed Awas, en dehors et sur les terrains, sa participation à la Coupe du Monde est remise en question.
Oui, exactement. Surtout qu'effectivement, il a déjà eu affaire à la justice, Mohamed Awas. Une condamnation déjà l'année dernière. 18 mois de prison avec sursis pour des cambriolages, convoqué également cette année pour violences aggravées. Un délibéré prévu le 30 juin, alors que la liste des joueurs sélectionnés pour le Mondial sera connue le 21. Mohamed Awas, 29 ans, né au Havre, père de deux enfants, 16 sélections avec le 15 de France, des affaires judiciaires effectivement, mais aussi une attitude qui interroge sur les terrains. Ce carton rouge face à l'Écosse, par exemple, lors du tournoi des Six Nations en 2020, après avoir asséné un coup de poing dans le visage d'un adversaire, ou même cette année face à l'Écosse, toujours un coup de tête, cette fois, qui a valu à Mohamed Awas une suspension de 4 semaines. Et puis encore plus récemment, il y a 15 jours, le pilier a été écarté du groupe avec son club Montpellier à la suite de tensions dans le vestiaire et d'une vive altercation avec son coach. Le rugbyman ne jouera pas demain contre Pau à l'occasion de la dernière journée de Top 14, avec surtout un transfert à Clermont cet été qui est compromis, tout comme naturellement une participation au Mondial.
Merci Baptiste. Baptiste Durieux du service des sports de RTL. Deux jours après la terrible découverte à Dreux, les corps d'une femme et de deux enfants tués à l'arme blanche, l'ex-conjoint de la mère de famille, père des deux enfants, a été arrêté ce matin dans les Yvelines. C'est le principal suspect de ce triple homicide. Bonsoir Anne Lehnaf.
Bonsoir.
Du service police-justice de RTL. C'est une employée d'une boutique de téléphonie qui a donné l'alerte.
Oui, d'une boutique à Plaisir dans les Yvelines, chez qui cet homme malentendant s'est rendu une première fois jeudi et il y est revenu ce matin. Alors la jeune femme qui le savait rechercher a immédiatement prévenu la police. L'homme était en fuite depuis 48 heures, depuis jeudi donc, jour où les corps de sa femme et de ses deux enfants, une adolescente de 13 ans et un petit garçon de 18 mois, ont été découverts dans un pavillon de Dreux, lardé de coups de couteau. Les pompiers avaient été alertés par un proche, sans nouvelles, de la mère de famille âgée de 36 ans. Et cette femme était très inquiète, effrayée par cet ex-mari violent. Condamné pour ses violences à 8 mois de prison ferme, il n'avait pas le droit de l'approcher, mais elle venait de déposer deux fois plainte contre lui, début mai parce qu'elle avait découvert un tracker GPS sous sa voiture, et mercredi, la veille de sa mort, pour le vol de son passeport et de bijoux chez elle. Elle était convaincue que son ex-mari avait un double de ses clés. L'homme est interrogé en ce moment par les enquêteurs d'Orléans, aidé par un traducteur en langue des signes.
Anne Lehnaf du service police-justice de RTL, excusez-nous pour la liaison téléphonique. Et puis la maman de Eya, comme elle l'a annoncé hier soir sur RTL, elle est en route pour le Danemark, en route pour retrouver sa fille de 10 ans, violemment kidnappée jeudi à Fontaine, c'était en banlieue de Grenoble, enlevée par son père et un complice. Les deux hommes ont été interpellés hier après-midi dans une ville située à une centaine de kilomètres de Copenhague. En Turquie, c'est veillée d'armes. Demain, c'est le second tour de la présidentielle. Au pouvoir depuis 20 ans, Recep Tayyip Erdogan en position de force contre toute attente. Malgré la crise économique, malgré le séisme dévastateur du 6 février, il est arrivé en tête du premier tour il y a deux semaines devant son rival Kemal Kılıçdaroğlu. En France, la communauté turque s'est déplacée aux urnes cette semaine. Elle votait en avance et Gali Bonin, elle soutient majoritairement le reis sortant, le chef sortant.
Oui, c'est le grand favori des ressortissants turcs. Au premier tour, il a remporté plus de 60% des voix. Ils sont nombreux à voir en lui l'homme qui a réussi à redresser la Turquie. Selon Ismaël, c'est le seul candidat qui mérite de gouverner.
La politique, ça divise les gens. Aujourd'hui, si je vote, parce que lui, il garde cette union. Il dit, nous, on est tous ensemble.
Il a donné la confiance à la nation.
Mais tous ne sont pas séduits par le président sortant et sa poigne de fer sur les affaires du pays. C'est le cas d'Elem. Elle soutient l'opposant Kemal Kılıçdaroğlu et espère voir la fin du règne d'Erdogan.
Il est temps du changement. Ça fait quand même 21 ans qu'ils sont en politique. Il faut du changement. Les gens sont mécontents maintenant avec tout ce qui se passe, avec l'inflation, l'économie, avec le tremblement de terre. On croise les doigts.
Plus de 200 000 Turcs ont participé au second tour en France. Pour plusieurs d'entre eux, ce vote était aussi une manière de montrer au monde que, malgré les dérives autoritaires du dirigeant, la Turquie est encore une démocratie.
Reportage à Paris de Gali Bonin pour RTL. Paris, où c'est en ce moment à l'UNESCO des ministres d'une soixantaine de pays rassemblés pour parler pollution plastique, un désastre, hein, vous le savez, pour la planète. La production pourrait tripler d'ici 2060 si on ne fait rien. Agir et se fixer des objectifs, ce sera justement l'objet de discussions à partir de lundi, toujours dans la capitale, des négociations pour aboutir à un futur traité mondial. Allez, dans un instant, votre journal se poursuit. C'est l'avant-dernière journée de Ligue 1, c'est soir de multiplex, tous les enjeux, c'est juste après ça.
Antoine Cavallero, RTL Soir. Hello. Antoine Cavallero, RTL Soir.
18h12 sur RTL et c'est dans moins de 3h le coup d'envoi du multiplex Ligue 1. On vous fait vivre cette avant-dernière journée de championnat RTL Foot exceptionnel de 20h à minuit. Les 10 matchs avec 10 correspondants en tribune avec en chef d'orchestre. Je vous le donne dans le mille, Eric Silvestro qui nous rejoint. Bonsoir Eric.
Salut Antoine, salut à tous.
Alors s'il ne perd pas à Strasbourg, le PSG peut rafler le 11e titre et entrer ainsi dans l'histoire. Ça c'est simple. Derrière les enjeux sont nombreux. On a Lens d'abord qui peut s'assurer de sa place de dauphin et ainsi retrouver la Ligue des Champions.
Oui, ce serait une conclusion magnifique hein, d'une saison absolument incroyable et méritée pour Lens. Rendez-vous compte, 78 points avant ce dernier match. C'est déjà 10 de plus que le record de Lens en Ligue 1. Pour cela, il faut chicoter. Vous savez, c'est l'expression à Bollard. Ajaccio qui est déjà relégué, donc ça semble une formalité. Mais attention, Dortmund, qui devait être champion d'Allemagne cet après-midi à domicile, a perdu, a fait match nul et du coup a laissé le titre au Bayern. Donc il faut faire attention jusqu'au bout. Lens doit donc gagner contre Ajaccio ou alors, si Marseille ne gagne pas contre Brest, Lens sera assuré d'être en Ligue des Champions la saison prochaine.
Au pied du podium, Monaco, Lille, Rennes, trois clubs pour deux places européennes.
Et là, c'est la grande peur du vide pour l'AS Monaco qui jouait encore il y a quelques semaines la deuxième, voire la troisième place, le podium, et qui pourrait être éjecté hors des Coupes d'Europe en cas de défaite à Rennes ce soir. Il restera évidemment une dernière journée. Pour cela, il faut aussi que Lille batte Nantes, mais Monaco a très peur de se retrouver sans rien. Et pour Rennes et Lille, on a envie de jouer la Coupe d'Europe.
Et puis en bas de tableau, Nantes au bord du gouffre, au bord de la Ligue 2.
Oui, un point de retard sur Auxerre, deux matchs à jouer. Ce déplacement à Lille qui joue donc la quatrième place et la place en Coupe d'Europe, donc ça va être très dur pour les Nantais. Si Auxerre venait à gagner à Toulouse, le vainqueur de la Coupe de France, mais qui n'a plus rien à jouer, et que Nantes perdait à Lille, eh bien Nantes serait officiellement en Ligue 2 dès ce soir, avec 3 Ajaccio et Angers, sinon ça se jouera lors de la dernière journée entre Auxerre et Nantes.
Merci beaucoup Eric, on vous retrouve donc à 20h jusqu'à minuit pour
suivre. Je vous donne les 10 matchs rapidement parce que je sais qu'il y en a qui les veulent. Lens, Ajaccio, Marseille, Brest, Strasbourg, PSG, Lille, Nantes, Rennes, Monaco, Toulouse, Auxerre, Lyon, Reims, Montpellier, Nice, Clermont, Lorient et Angers 3.
Et nul doute qu'à Lyon, justement, l'émotion sera grande. Les adieux du public lyonnais à Jean-Michel Aulas, le boss de l'OL, poussé vers la sortie par les nouveaux actionnaires américains. Bonsoir Raphaël Vantard.
Bonsoir.
C'est vous qui allez suivre ce Lyon-Reims pour RTL. Le Groupama Stadium à guichet fermé et les supporters ont vu les choses en grand pour rendre hommage au président.
Ouais, ça a commencé dès ce matin avec une immense bâche, une banderole déployée par un groupe de supporters renommant le Groupama Stadium en stade Jean-Michel Aulas. Les supporters ont prévu de déployer plusieurs portraits grandioses du président historique de l'OL. Son nom sera scandé pendant presque tout le match. Noah, supporter lyonnais, en a déjà la chair de poule.
Tout ce qu'il a apporté, il a fait construire ce stade, cette Ligue 1, tous les autres trophées, il le mérite. C'est le papa du club, c'est vraiment le père du club, s'il est là, ça fait quelque chose qu'il parte.
Et pour cette journée historique pour l'OL, celle de la fin d'un règne qui aura marqué le football français, Jérémy s'est offert un maillot hommage au président Aulas.
Donc ça, c'est le nouveau maillot, donc celui de la saison qui arrive, avec le merci président côté du cœur.
Pour moi, l'OL, c'était Jean-Michel Aulas. C'est place à l'avenir, mais on l'oubliera jamais, quoi.
Vous croyez qu'un jour ce stade portera son nom ?
Et pourquoi pas ?
Et pour la dernière fois ce soir dans le stade donc qu'il a fait construire, Jean-Michel Aulas prendra la place dans la tribune présidentielle. Puis en seconde période, le président d'honneur de l'OL se mêlera au Bad Guns, plus ancien club de supporters du Virage Nord. Il recevra ensuite à l'issue du match un hommage de 30 minutes suivi d'un feu d'artifice.
Raphaël Vantard en direct de Lyon pour RTL. Et puis chez nos voisins allemands, incroyable retournement de situation. Le Borussia Dortmund avait son destin en main, pouvait remporter le championnat, mais le BVB a fait match nul. Et comme on dit en Allemagne, eh bien à la fin, c'est le Bayern qui gagne. Munich soulève son 11e titre consécutif après une victoire sur la pelouse de Cologne, 2-1. Et puis dans les rues chics de Monaco, les vrombissements de la Formule 1. Le Grand Prix, c'est demain. On connaît la grille de départ après des qualifications complètement folles. Bonsoir Frédéric Veil.
Bonsoir Antoine.
Envoyé spécial de RTL sur le Rocher, c'est l'inévitable Verstappen qui s'est emparé de la pole cet après-midi.
Effectivement, 23e pole position en carrière pour le double champion du monde, sa 3e cette saison, mais surtout sa première en principauté. Quel tour incroyable de Max Verstappen qui a explosé le chrono en frôlant les murs par 3 fois pour s'imposer finalement dans les ultimes secondes et battre Fernando Alonso qui lui pensait pourtant avoir décroché le Graal plus de 10 ans après sa dernière pole au Grand Prix d'Allemagne 2012. Mais voilà, Super Max était encore une fois incroyable. La grille de départ donc du 80e Grand Prix de Monaco sera donc Verstappen et Alonso en première ligne, Charles Leclerc deuxième ligne à côté, et là aussi d'un très très grand Esteban Ocon, 4e temps des qualifs cet après-midi. Esteban Ocon, tout sourire au micro de nos confrères de Canal+.
On a vraiment lâché tous les chevaux sur le dernier tour comme il fallait. On a construit très bien le week-end, donc c'est top. Vraiment un bon boulot de la part de l'équipe. Je pense qu'on a vraiment mis tout dans l'ordre aujourd'hui pour être 4e. On a fait une très bonne qualif et on est content. En tout cas, ça nous laisse de l'espoir pour demain.
Ocon donc 4e devant Sainz et Hamilton, et l'autre pilote alpine Pierre Gasly 7e. Alpine qui retrouve donc des couleurs sous le soleil princier. Ça promet pour demain devant les 40 000 spectateurs réunis devant dans les tribunes du circuit de Monaco et évidemment au balcon de tous les immeubles de la principauté.
Frédéric Veil, notre spécialiste de Formule 1 en direct de Monaco. Et puis le vélo, la victoire de Primoz Roglic sur la 20e étape du Giro. Le Slovène quasi assuré de remporter le Tour d'Italie demain.
RTL Festival de Cannes 2023.
18h17, on file à Cannes. La cérémonie de clôture débute à 20h30 avec le tant attendu palmarès de cette 76e édition qui, pour succéder à Sans filtre de Ruben Östlund, nous sommes avec les deux envoyés spéciaux de RTL sur la croisette, Stéphane Boutsock, Laurent Marsic. Bonsoir à tous les deux.
Bonsoir.
Stéphane, 21 films étaient donc en compétition. Vous qui êtes toujours bien renseigné, qui sont les favoris? Quelles sont vos dernières indiscrétions?
Alors, ça commence à se dessiner, ce palmarès. Ce que l'on sait déjà, c'est qu'il y a des vétérans qui étaient en lice et qui ne seront pas au palmarès, à savoir Ken Loach, Marco Bellocchio et Nanni Moretti, qui sont repartis, qui ont même quitté Cannes ce soir. En revanche, apparemment, je dis bien apparemment parce que vous savez qu'ici, tout peut se redessiner encore presque jusqu'au dernier moment. Il y a quand même des films qui sont là. On a rappelé les équipes à la mi-journée. Il y aura logiquement, je dis bien logiquement, deux Français au palmarès, à savoir la réalisatrice Justine Trier avec son film Anatomie d'une chute, et le franco-vietnamien Tran Anh Nguyen avec La passion de Dodin Bouffant, qui réunit le couple Magimel Binoche. On ne sait évidemment pas encore à quel niveau ce palmarès, mais en tout cas, ils sont là. Parmi ceux qui sont revenus aussi, le japonais Kore-eda, le britannique Jonathan Glazer, qui est le grandissime favori depuis quasiment le début du festival, avec son film qui raconte la vie familiale et quotidienne du directeur du camp d'Auschwitz. Le film, je vous en ai parlé depuis quelques jours, est vraiment totalement impressionnant. Impressionnant. Wim Wenders aussi, là c'est un vétéran, sera au palmarès. Voilà, reste maintenant à articuler tout ça et à voir qui aura les plus grands prix, à savoir la Palme d'Or, le prix du jury, le prix spécial, etc.
On a bien noté Stéphane, hein, le palmarès, l'annonce du palmarès que vous nous ferez vivre en fil rouge sur RTL à partir de 20h30. Laurent, vous êtes devant le palais, devant les marches. Quelles sont les montées que vous retiendrez de cette quinzaine?
Alors, je me suis plutôt mis à l'arrière du palais, d'abord parce que pour l'instant, les portes ne sont pas encore ouvertes et vous savez, c'est assez sécurisé ici, donc il faut faire passer les maîtres-chiens, etc. Je suis pas très loin des salles d'interview, en fait. C'est par là que passeront les lauréats après la cérémonie. Petite indiscrétion sur cette soirée de ce soir. D'abord, la Palme d'Or, c'est l'icône Jeanne Fonda qui remettra au grand ou à la grande gagnante de ce festival la Palme d'Or. Jeanne Fonda qui nous a accordé hier une des rares interviews qu'elle a données ici à Cannes. Et puis, c'est un un duo qui remettra le grand prix du jury, Quentin Tarantino et Roger Corman. Il a 97 ans, alors il est moins connu pour ses films à petit budget que pour son travail de producteur. C'est un dénicheur de talent. Il a quand même lancé les carrières de personnes comme Martin Scorsese, Francis Ford Coppola, James Cameron, Jack Nicholson. Autant dire que c'est quelqu'un qui a plutôt eu du nez. Voilà, les portes sont en train de s'ouvrir. Je vais aller m'installer en haut des marches et puis on se retrouvera tout à l'heure avec Stéphane.
Merci Laurent. Stéphane, je me retourne vers vous. Vous, l'image que vous retournez de cette 76e édition, c'est l'émotion d'un certain Harrison Ford.
Oui, vraiment, ça c'était il y a une semaine et je pense que ça va me rester à l'esprit un bon bout de temps, cette interview dans un palace pas très loin de Cannes, hein, au Cap d'Antibes, à l'heure du petit déjeuner, enfin du breakfast en l'occurrence, et des œufs brouillés au poivre d'Harrison Ford et les larmes dans les yeux de ce grand acteur de 81 ans quand il évoquait l'accueil qu'il a reçu ici pour Indiana Jones, accueil assez hallucinant, un hommage, une standing ovation, etc. Et voir les larmes dans ses yeux bleus un matin au bord de l'eau, croyez-moi, ça marque avec cette conversation qu'on peut réécouter d'ailleurs hein, en podcast et sur le site RTL.fr. Vraiment, ça, c'est une très, très, très belle image de ce Cannes 2023.
Très bon conseil d'aller sur RTL.fr ou sur l'application RTL. Merci beaucoup Stéphane Boutsock et Laurent Marsic, les envoyés spéciaux de RTL à Cannes. On vous retrouve demain dans Laissez-vous tenter. Dimanche, ce sera à partir de 9h15 sur RTL. Dans un instant, vous allez entendre Yannick Noah, le vainqueur de Roland-Garros 83, 40 ans après son exploit célébré aujourd'hui porte d'Auteuil. Vous allez entendre sa joie, son émotion. RTL, il est 18h22.
RTL Soir. RTL Soir avec Antoine Cavallero. RTL Roland-Garros 2023.
Et à 18h24, on retrouve Isabelle Langer à Roland-Garros après le concert de Yannick Noah que vous nous avez si bien raconté tout à l'heure. Merci. Le vainqueur 1983 est venu donner une conférence de presse. Vous avez pu vous entretenir avec lui.
Oui, lui qui avait fui quand même les médias hein, ces derniers mois. On lui avait relancé et relancé pour qu'il nous parle de sa victoire d'il y a 40 ans. Et bah, finalement, Noah, comme d'habitude, hein, finalement, il était content de retrouver de vieilles connaissances dans cette salle de presse. Alors, je vous propose de vous livrer quelques extraits de cette interview. On a d'abord parlé justement de ce que représente pour lui ce 5 juin 1983.
À part la naissance de mes enfants, c'est le plus beau jour de ma vie. C'est le plus beau jour de ma vie. C'est, enfin, je suis plein de gratitude. De par mon parcours, d'avoir le plus beau jour de ma vie filmé. J'ai le film. Et assez étonnamment, avec le temps, je m'aperçois qu'à chaque fois que je vois ces images, ça me procure une émotion très forte. Voilà, donc je suis certain que, bah, je sais pas, dans 30, 40 ans, 20 ans, on verra quand je vais me casser la pipe. Je suis certain que ce sera les images qu'on va montrer en ouverture du journal. Tu vois, c'est sûr, on va parler de ça. Et mais c'est juste parce que les gens de ma génération, ce jour-là comptait pour quasiment tous les gens de ma génération en France. En toute modestie, j'ai des témoignages quasi quotidiens quand je suis en France, et aujourd'hui beaucoup, parce que bon, on en parle, vous en parlez, de gens qui se souviennent tous d'où ils étaient ce jour-là. Et du coup, bah, ça m'émeut.
Dites donc, Isabelle, on sent vraiment beaucoup d'émotions chez Yannick Noah.
Oui, c'était le cas aussi quand il est rentré sur le court cet après-midi. Oui, parce que jusqu'à maintenant, il n'avait jamais vraiment été honoré pour cette victoire. Il le raconte lui-même. L'année dernière, il était venu voir le combat de Tony Yoka en boxe ici sur ce central avec deux de ses enfants, puis s'était baladé dans le stade et ses enfants lui ont dit, mais en fait, il n'y a rien de toi dans ce stade. Donc, ce sera résolu demain puisque une fresque sera inaugurée et aujourd'hui, a donc donné ce concert auquel il a invité son ami Mats Wilander, là, qui est en train de faire des répétitions aussi sur le central parce qu'il interviewe les joueurs. Écoutez ce qu'il dit de Mats.
C'est mon ami depuis longtemps. Notre blagounette entre nous, c'est que bah, les gens le connaissent ici parce qu'il a perdu contre moi alors qu'il a gagné 3 fois. Quoi. Donc ça, on rigole. C'est vraiment mon ami. On a fait plein de concerts ensemble, on a fait des soirées ensemble, on a fait des vacances ensemble. Et là, la passion de la musique comme moi et de jouer ici. Et encore une fois, je pense que les gens qui voient Mats arriver sur scène, ils se disent, bah, tiens, voilà le finaliste, quoi. Et c'est assez rigolo, on en rigole. Mais lui, bah, je sais pas, vous connaissez tous Mats. Je pense que c'est le mec le plus humble, cool de l'histoire. Enfin, c'est quand même le seul mec de l'histoire qui a refait jouer une balle de match alors qu'il était en finale, il avait 18 ans. Enfin, moi, je l'aurais piqué le point, quoi. Et tous, on aurait tous fait la même chose. Donc ça, c'est Mats, quoi. Mats, c'est un super mec.
Yannick Noah, Isabelle, qui, comme d'habitude, n'avait pas sa langue dans sa poche.
Non. Il nous a d'ailleurs dit qu'il trouvait le tennis aujourd'hui trop polissé, trop cadré. Il regrette les coups de gueule à la McEnroe. Et puis, il ne comprend pas ces joueurs qui prennent des pauses à rallonge. Vous savez que ça avait fait débat ces dernières années pendant les matchs. Écoutez d'ailleurs ce qu'il en pense.
Je pense que les joueurs aujourd'hui ont des plus petites vessies. Enfin, je vois pas autre chose. Je sais pas, je te parle des minimes jusqu'à mon dernier match, j'ai jamais eu envie de pisser sur le court. Je sais pas, tu transpires, tu pisses avant, j'ai jamais envie de pisser. Donc il y a un problème de vessie. Si je te domine physiquement, ça fait partie du jeu. Et moi je pense sincèrement que dans 95% des cas, ils sont pas blessés, ils reprennent. Donc c'est vraiment pour casser le rythme du match. Or le rythme du match, c'est essentiel. Enfin tu suis un match, tu vois très bien qu'à un moment il y a un gars qui prend l'ascendant, tout d'un coup là il s'arrête. Il y a ça, il y a les. Alors en soi-disant on n'a pas le droit de coacher, tout se coach. Enfin il y a plein de choses à dire, tu vois. Mais je veux pas être le vieux con qui vient raconter. Mais par contre il y a un truc qu'on peut vraiment faire ensemble, c'est vérifier ce problème de vessie, quoi. C'est bizarre. Je pense qu'on peut finir là-dessus.
Merci beaucoup Isabelle Langer.
Merci Antoine. À demain.
À partir de 13h. Évidemment, on vous retrouve pour suivre cette nouvelle édition de Roland Garros. Merci Isabelle Langer.
Mon métier, ma passion, Armel Lévy.
Et bonsoir Armel.
Bonsoir.
Ce soir, vous nous emmenez à l'atelier du cordonnier. C'est à Argelès-sur-Mer, une boutique tenue par Marc Banègue aux côtés de sa femme et de leurs salariés. Il répare des souliers depuis 35 ans.
La cordonnerie, elle consiste à réparer des chaussures traditionnelles ou des chaussures qui sont plus modernes, style sneakers. Tout ce qui est basé sur la chaussure et le travail du cordonnier.
Qu'est-ce qui vous plaît dans votre métier de cordonnier ?
Le travail n'est jamais le même. On peut avoir à faire un ressemelage, ce n'est jamais la même chose, c'est toujours différent. Il y a toujours un petit travail de réflexion. La recherche de faire quelque chose qui va être le plus esthétique possible, quoi qu'on fasse, que ce soit des pièces qu'on va devoir mettre parce qu'il y a une déchirure, un chien qui a mangé une partie de la chaussure. Donc quand on fait quelque chose, c'est ce désir de vouloir satisfaire le client. Quand un client vient, c'est parce qu'il aime sa paire de chaussures, parce qu'il a envie de la garder. Et quand on arrive à lui rendre quelque chose quasiment neuf, ils en ont le sourire, et on en a les remerciements. Il y a ce plaisir partagé, on va dire, avec le client.
Est-ce que cordonnier, c'est un métier d'avenir ?
Tout à fait, oui. C'est un vieux métier, mais qui se renouvelle en permanence. Vu que les chaussures évoluent, les travaux qu'on peut faire, tout ça évolue. Donc on se rend compte que les gens, quand même, avant de jeter, viennent nous voir et se disent, bon voilà, est-ce qu'on peut leur redonner une nouvelle vie ? On veut pas jeter pour jeter, racheter, consommer pour consommer. Voilà. Plus ça va et plus on essaie de faire et de l'écologie et de recycler. Donc je pense que le cordonnier redevient un métier d'avenir qu'une période où il avait tendance à péricliter un petit peu.
Cordonnier, un métier d'avenir éco-responsable. Merci Armel Lévy.